France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
En 1955, après avoir publié L'asphyxie et l'affamée, les éditions Gallimard font paraître le livre Ravage, roman de Violette Leduc. Le texte est alors censuré, amputé de 150 pages, la structure du roman y perd en complexité et en puissance, la portée érotique des premiers émois lesbiens est atrophiée et la dédicace sobre à Simone de Beauvoir en cache une autre, réelle, beaucoup plus explicite et passionnée. La même maison Gallimard, près de 70 ans plus tard, propose une nouvelle édition de ce livre au plus proche du manuscrit original qui n'a jamais été retrouvé. Mathilde Forget et Anaïs Frantz sont nos invités pour en parler. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier, postée au carrefour des enjeux littéraires et numériques. Elle nous parle aujourd'hui de Crash Room, un projet de traduction et d'édition numérique consacré au handicap, à la neurodiversité et à l'accessibilité. Et à la fin, vous connaissez le grand jeu des pages musicales, ce sont vos trouvailles de lecture qui sont à l'honneur. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Mathilde Forget.
Bonjour.
Vous êtes autrice, musicienne. Vous avez publié deux livres, 2021-2019, aux éditions Grasset. Vous signez une préface à Ravage. Bienvenue à vous dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir. Je signale qu'on peut aussi lire la préface de Camille Froidevaux-Métairie ainsi qu'une note sur l'édition par Margot Gallimard. C'est une sorte d'invitation avant de plonger dans Ravage. Et ce sont trois textes assez importants pour la manière dont on le reçoit ensuite. Et bonjour à vous, Anaïs Frantz.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous êtes universitaire. Votre thèse, j'en parle, propose une lecture des écrits de Violette Leduc et Marguerite Duras sous l'angle la notion de la pudeur. Vous avez par ailleurs signé plusieurs livres et préfaces consacrés à l'œuvre de Violette Leduc et vous avez participé à l'établissement de cette édition du nouveau Ravage. Bienvenue à toutes les deux dans le Book Club. Ici, d'habitude, on fait une sorte de portrait des lectrices que sont nos invités, là aussi, pour avoir une sorte de palier avant de parler des textes que il et elle publient. On les envisage d'abord en tant que lectrices. Là, on va réduire la focale et on va vous demander quelle lectrice de Violette Leduc vous êtes, Mathilde Forget, où et quand, par quel texte, à quel moment de votre vie, de lectrice ou de votre vie tout court, vous débarquez chez Violette Leduc ?
Ça commence avec Thérèse et Isabelle, ça c'est certain. Je dirais il y a 3-4 ans, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et Thérèse et Isabelle, quand on est lesbienne et qu'on a un entourage qui lit un peu, on en entend parler, c'est comme une rumeur, c'est comme un mythe. Et donc j'ai fini par l'ouvrir et j'ai été vraiment bouleversée par ce récit de cette rencontre amoureuse donc entre deux jeunes filles et de cette rencontre sexuelle, cette sexualité lesbienne. Et après, j'ai lu donc d'autres textes de Violette, La Bâtarde, L'Asphyxie, La Folie en tête, Ravage. J'aime beaucoup son écriture à la fois très collée au réel et très très poétique, qui part comme ça très vite dans la poésie avec beaucoup d'images. Et j'aime aussi bien sûr les thèmes qu'elle aborde. Je suis très très sensible au travail d'autofiction dans la littérature, ce qui est son travail, et aux thèmes qu'elle aborde. Et donc voilà, j'ai poursuivi mes lectures.
Vous vous souvenez comment on en parlait de Thérèse et Isabelle? Comment la rumeur vous en parlait?
Oui, je m'en souviens bien. On me disait c'est un texte érotique lesbien incroyable, il faut absolument que tu lises. Et je me souviens que, ma mère s'appelait Isabelle, donc j'avais un tout petit peu de réticence à y aller, mais
une fois cette réticence voilà, dépassée.
Et maintenant Isabelle, c'est presque Isabelle de Thérèse et Isabelle, on parlait beaucoup de l'aspect érotique lesbien et.
Quel sens justement est-ce que la rumeur disait quoi de ce texte-là? Parce que même avant les années 2020, c'est un texte qui a beaucoup circulé par la rumeur de ce qu'étaient Thérèse et Isabelle. Peut-être on y viendra tout à l'heure, mais d'une certaine manière, on peut dire très rapidement que c'est le début de Ravage, c'est le début coupé de Ravage. Qu'est-ce qu'on en disait? Est-ce qu'on disait c'est une écriture qui parle de la sexualité lesbienne comme d'autres ne le font pas? Qu'est-ce qu'on disait qu'on y trouvait?
Moi, je pense qu'il y avait la question de la justesse et d'une sexualité du coup qu'on reconnaissait vraiment. Et après, il y avait aussi la question de son propre talent et de sa propre poésie. Et notamment, même pas forcément que sur la sexualité, mais moi, c'est aussi beaucoup des phrases sur la rencontre amoureuse qui m'ont bouleversée et qui sont très, très justes. Donc, je pense qu'il y a cette question de la justesse, mais aussi cette question de la quelque chose d'un peu cru, en tout cas de frontal,
de physique, en tout cas.
Voilà,
corps,
exactement.
Il est vraiment au cœur de ce texte.
Ouais. Et elle disait qu'elle avait finalement échoué, je crois, que c'était si dur d'écrire la sexualité, le désir, le plaisir. Mais je pense qu'elle n'a pas du tout échoué. Mais oui, je pense que c'est ça. Il y avait cette justesse dans quelque chose qui, moi, je trouvais très difficile à écrire. Et j'ai rarement...
Vous sauriez dire si vous l'avez trouvé ailleurs ?
Peut-être, mais là, j'ai pas de... Pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui m'a le plus marqué dans sa justesse, dans sa beauté, dans ce que ça pouvait m'apporter de l'écriture du sexe, ouais.
Pourquoi est-ce que vous avez continué à partir de ce texte-là ? Qu'est-ce qui vous rendait curieuse ?
Alors, je pense la question de l'autofiction. Je pense que c'est la littérature que j'aime le plus lire, qui m'intéresse le plus. Et après, vraiment, pour... Je peux partir d'une scène peut-être qui est dans Ravage, où il y a cette scène où elle rejoint Cécile, qui est une autre amante. Il n'y a pas que Isabelle. Et en fait, elle descend du train. Et en fait, ça fait plusieurs pages où elle descend du train. Elle imagine les voyageurs qui vont partir. Après, tout de suite, elle tourne la tête. Elle voit un arbre. Elle imagine que quand elle sera morte, elle pourrait être une branche à cet arbre. Puis elle imagine la personne qui va descendre du train, qui regardera la branche. Et donc, toutes ces digressions poétiques qui s'arrêtent jamais. Mais dans une scène... assez simple, un déplacement assez simple qui est de descendre du train. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'a donné envie, du coup, d'aller découvrir les autres textes. Et après aussi ce qu'elle est, Thérèse, c'est-à-dire cette bâtarde qui arrive en littérature, qui ose écrire les amours lesbiens, un viol, un avortement, qui est très, très honnête et authentique dans ce qu'elle est. Et ça me touche beaucoup. Et donc,
Pour une figure, presque, d'une certaine manière.
Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Oui, après, je suis allée écouter les archives. Et puis maintenant, quand je lis ses livres, elle est aussi avec moi dans ce qu'elle est, dans ce que j'ai pu lire sur elle et sur sa vie.
Mais c'est arrivé après. C'est la dimension après. Plus biographique. Ouais. Anaïs France, même question. Quand est-ce que vous découvrez l'œuvre de Violette Leduc et par quel texte ?
Alors moi, j'ai commencé il y a plus longtemps que ça à lire Violette Leduc, il y a une vingtaine d'années, même un peu plus peut-être. J'ai commencé par La Bâtarde.
C'est un texte qui est ultérieur à celui dont on va parler précisément aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. En fait, Ravage, c'est vrai que c'est déjà très inspiré par l'autobiographie. C'est déjà un récit assez chronologique par rapport à l'autobiographie. Et La Bâtarde, ça va être la version... pleine de l'autobiographie.
Qui vous met ce texte dans les mains ? Où est-ce que vous le trouvez ?
Alors, moi, quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Et dans les années 90, la bande dessinée, c'était essentiellement des auteurs masculins. Et on avait l'habitude de se couler dans un corps, dans un regard, dans une pensée d'homme. Et j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir, qui a été... une grande révélation et qui parlait de Violette Leduc dans ses mémoires. J'ai suivi la piste et puis donc j'ai découvert que dans la bibliothèque de ma grand-mère, il y avait La Bâtarde. Ma grand-mère était juive, moi j'étais juive par mon père, mais pas par ma mère. Donc pour la culture juive, j'étais bâtarde au sens où j'étais pas tout à fait juive, mais que j'héritais quand même de toute l'histoire.
Peut-être on fait une mini parenthèse sur La Bâtarde. Dans La Bâtarde, elle aborde le fait que elle est née d'une grossesse non désirée et sa mère est fille-mère.
Sa mère est fille-mère, elle est domestique et c'est très tard que les naissances illégitimes sont reconnues à égalité avec les naissances légitimes. Donc, elle subit toutes les discriminations sociales. On est dans une société où les femmes sont totalement précarisées, piégées, en fait, par tout un système. Et la fille-mère domestique est au bout de la chaîne. Et donc, elle grandit dans cette énorme pression sociale, cette idée de la faute qu'elle incarne.
Et d'image d'elle-même. C'est aussi ça qui est beaucoup... Donc, vous trouvez dans ce texte-là quelque chose qui...
C'est la question de la bâtardise.
Ouais.
Voilà. Le fait de ne pas tout à fait correspondre ni d'un côté ni de l'autre, dans aucun milieu.
C'est marrant parce que vous entrez toutes les deux par deux portes assez différentes. Ouais.
Mais je pense que c'est très riche, Violette Leduc. Et donc, par rapport à moi, mes lectures adolescentes, quand je lis Violette Leduc, c'est la vraie vie. tout d'un coup, il y a quelqu'un qui raconte vraiment qu'est-ce que c'est la vie.
Quand vous dites adolescente, c'est vraiment 14-15 ans?
Non, là, c'était 18 ans, mais je veux dire, quand j'étais dans une approche de dans la bande dessinée, où on a vraiment une vision très masculine du monde dans les années 90.
Là, vous avez un shoot d'existence, quoi.
Bah, là, c'est, voilà, c'est comment une femme va parler de qu'est-ce que c'est l'expérience vécue. Hein, c'est le grand projet de Beauvoir. Et ouais, ça compte. Et puis, c'est l'écriture, c'est la beauté. C'est très, très beau, quoi.
C'est même choquant, moi, je trouve. Il y a quelque chose... Enfin, quand je dis choquant au sens de ce que ça fait au corps, c'est que moi, j'avais lu La Bâtarde, mais je n'avais pas lu Ravage. Et l'entrée dans Ravage, ben, on est aussi secoué avant même de parler de la place des corps, de la sexualité, de la rencontre amoureuse. Mais on est secoué par la langue de cette autrice. Il y a vraiment quelque chose qui... Ben, on y reviendra, mais... Bon, et après La Bâtarde, du coup?
Et donc, je pense qu'après, j'ai dû enchaîner avec L'Affamée ou L'Asphyxie. Et là, c'était pareil, quoi. L'Affamée, c'était... C'est comme Thérèse et Isabelle, quoi. C'est une avalanche d'images poétiques extrêmement travaillées. Et L'Affamée, c'est un texte amoureux. C'est très, très passionné. Je meurs de soif auprès de La Fontaine. Et La Fontaine, c'est Simone de Beauvoir. C'est la découverte d'une écriture. Je pense que là, à ce moment-là, vers 20 ans, ce qui m'intéresse, c'est la beauté de cette écriture-là et de la manière dont elle réussit à transcrire le vécu. Et il faut dire qu'elle ferait quelque chose de nouveau, quoi. Il y a un vide dans cet espace symbolique qu'est le langage, qu'est le récit. Il y a quelque chose à frayer pour que les femmes puissent se reconnaître, exister dans cet espace-là.
Vous continuez à cheminer avec Violette Leduc. Vous en faites, je le disais tout à l'heure, une partie de votre sujet d'étude, de thèse. Aujourd'hui, elle occupe quoi comme place dans votre bibliothèque, Anaïs France?
Disons qu'avec Violette Leduc, à l'université, c'était tout autre chose. C'est-à-dire que c'était presque clandestin de travailler sur Leduc. On ne trouvait pas de personne qui voulait diriger nos recherches.
À quel moment?
Au début des années 2000. Donc, on travaillait souvent avec des personnes qui n'avaient pas vraiment lu... et donc là, il y avait aussi une cause quoi, à défendre.
Pour s'en entrer aussi dans un corpus littéraire qui serait étudié au même titre que d'autres textes à ce moment-là. C'est intéressant. Et vous aviez d'autres amis universitaires ou collègues qui avaient aussi envie de travailler sur Leduc à ce moment-là?
C'est là qu'on découvre qu'il y a toute une petite communauté autour de Violette Leduc. On n'est pas seul. Il y avait la librairie Violette & Co. Il y avait Catherine Violet que j'ai rencontrée assez tôt. Et qui lançait toujours un appel en disant « il y a beaucoup de travail à faire sur Violette Leduc, il y a des manuscrits à étudier, il y a des textes inédits, censurés, à rééditer ». Et j'ai répondu à ces appels, quoi, et on a commencé à travailler. C'est long, hein, c'est travailler sur des manuscrits, ça occupe beaucoup de temps, beaucoup d'espace, parce que c'est lent de comparer des versions. Donc je dirais, aujourd'hui, Violette Leduc, c'est... c'est le travail de la recherche, c'est comment valoriser ce matrimoine littéraire-là qui est très important et qui en même temps a toujours besoin d'être soutenu. Moi, je crois que Violette Leduc, c'est une écrivaine qui a besoin d'être portée, soutenue.
Pas au sens où son écriture ne serait pas suffisamment forte pour se soutenir
mais
elle-même.
Mais parce que socialement, il y a quelque chose qui a besoin tout le temps de soutien. Et elle a besoin d'amour aussi pour fonctionner. Et ça, les préfaces, pour moi, c'était très importante là, dans Ravage.
On va y venir, parce que vraiment, il me semble que je disais tout à l'heure qu'on était invités par ces deux textes-là, les trois même d'ailleurs, à entrer dans Ravage, avec plusieurs visions du texte.
Puis c'est un soutien féminin, féministe, et de l'amour aussi qui passe... Mathilde Forget apporte beaucoup d'amour à Violette Leduc, je trouve que c'est
Je demandais justement à Mathilde Forget s'il y avait une constellation dans laquelle elle pouvait entrer, si pour vous, elle a des compagnonnages dans la bibliothèque, vous la mettez à côté de qui, vous la faites résonner avec qui?
Ah oui, on a parlé de Monique Wittig.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, je l'ai pas. Le corps lesbien,
je voulais
pas
juste dire le corps lesbien, mais je me suis dit bon, peut-être pas.
J'ai oublié. Et puis l'enfance aussi, le Poponax, ou en tout cas l'écriture de l'enfance, oui.
Je pense vraiment que Ravage, c'est un texte qui permet de passer de Jean Genet à Monique Wittig. Il y a quelque chose qui se passe là, ça c'est clair.
Mais au sens d'une transition ou au sens de tout est dedans? C'est-à-dire à la fois Jean Genet, à la fois Monique Wittig.
Elle permet le passage du point de vue lesbien, féminin, alors que Jean Genet, c'est quand même C'est masculin, c'est un autre point de vue.
Vous les laissez quand même côte à côte. Vous pourriez mettre Ravage de Leduc entre Jean Genet et Monique Wittig.
Disons, dans l'histoire littéraire, je pense qu'elle fait un chaînon. Mmh. Elle offre un chaînon. Après, pour moi, Leduc, maintenant, je la vois par rapport à des écrivaines contemporaines. Que ce soit... il y a Despentes, que Mathilde cite dans sa préface, ou Lola Lafont, ou Mathilde Forget. En fait, il y a quelque chose là... dans cette écriture à la fois violente et pudique, pour moi, elle parle beaucoup à aujourd'hui.
Eh ben, on va la faire parler aujourd'hui, juste après cette chanson de Psychic TV, où il est question de tomber amoureuse de la lumière.
When all the numbers swim together and all the shadows settle, when doors forced open shut again, a flytrap and a petal, my eyes burn and claws rush to fill them. And in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize that here at last I have my eyes. When all the figures sound retreat, the soft skin starts to shrivel. When dreams made real become less sweet, the orchid and the metal, my sex turns and claws rush to spill them. But in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so pure I can arise without the fear of secret lies. Na 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 na. When all the characters form sign, every moon is level. When all the spirits burn in my center, pierced by steel, my eyes burn and claws rush to fill them. But in the morning after the night, I fall in love with the light. It is so clear I realize, and now at last I have my eyes. And in the morning after the night, I fall in love with the light. In the morning after the night, I fall in love with the light. I fall in love with the light. And in the morning after the night, I fall in love with the light.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La langue que tu crées remet nos nuits dans leurs draps, nos culs dans les mains de nos amantes, nos cœurs, nos amours, nos sentiments au plus près du brûlant de la terre, enveloppe de zéphyr nos jambes, installe des rumeurs de taffetas au creux des mains, révèle les toiles d'araignées tissées entre nos cuisses par ton encre, elle est une balafre de folie au-dessus de l'œil qui la lie. Combien de fois ai-je entendu ce titre, Thérèse et Isabelle, prononcé par des lèvres bouleversées par le passage des trois mots ? Il paraît que tu te masturbais pour retrouver dans ton écriture les sensations physiques. Il paraît que c'est un orgasme de prononcer tes mots. Ton écriture est un corps. Ta langue littéraire est une enfant des rues, trop honnête, qui embarrasse Saint-Germain. Violette, tu n'es pas stratège. Cheval de Troie, ta subversion n'est pas un projet contre un ennui bourgeois. Ton audace n'est pas imbue d'elle-même. Lorsqu'on ne vient pas de la bourgeoisie, soit on essaye de la séduire avec ses codes, soit on reste discret. Toi, tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Je ne quittais pas mon manteau d'orphelinat acheté à la Samaritaine. Je voulais séduire avec mes misères. C'est un morceau choisi de votre magnifique préface, Mathilde Forget, à la nouvelle édition de Ravage, roman de Violette Leduc paru initialement tronqué par la censure en 1957 et publié, republié au plus proche du manuscrit original par la maison Gallimard. On en parle avec vous et avec Anaïs Frantz. Dans cette préface, vous la tutoyez. Comment est arrivé ce tutoiement ?
C'est pas ça. J'ai d'abord, quand Margot Gallimard m'a proposé la préface, j'ai d'abord... tout de suite paniquée, parce que je pensais que je devais écrire une préface classique et je m'en sentais pas vraiment capable. Et elle m'a tout de suite dit que si elle était venue me chercher, c'était pour mon écriture, que j'étais libre dans la forme, dans le fond, dans la longueur. Et donc je me suis dit, Ok, et ben dans ce cas, tout de suite m'est apparu que j'avais envie de m'adresser à Violette. Peut-être parce que tout de suite, quand j'ai appris la réédition de Ravage, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. J'ai pensé à Violette Leduc et à cette réparation, à son émotion, à la nôtre, d'imaginer la sienne. Et après, du coup, je suis allée à l'IMEC, là où il y a ses archives, je suis allée voir sa maison, donc j'ai tout de suite, je suis partie sur un texte plutôt sensible de mon rapport à Violette Leduc, et je me suis permis ce tutoiement. Et...
Mais qu'est-ce que ça veut dire, peut-être on s'y attarde sans en faire justement quelque chose de trop pesant, mais ça m'intéresse parce que ça raconte quelque chose de pouvoir tutoyer en littérature des autrices qui nous ont précédées. Qu'est-ce que ça répare là aussi, ou qu'est-ce que ça raconte de chez non manquant dont vous parliez tout à l'heure, Anaïs France?
Oui, je pense que mon lien à Violette, il est aussi construit par mon lien au milieu littéraire et à la littérature, qui était pas évident, qui moi je lisais pas quand j'étais petite. C'est toi, Anaïs, qui dit qu'elle était elle Violette lectrice autodidacte. Mmh. Et je pense que je le suis aussi. Mon premier souvenir de lecture, c'est plutôt justement de voir ma cousine avec son livre pendant qu'on mangeait à table, tellement qu'elle voulait pas le quitter, et de ne pas comprendre, mais de comprendre déjà que j'étais triste de passer à côté de quelque chose, mais que ça me paraissait beaucoup trop impressionnant. Et Violette aussi a échoué au bac, moi aussi. Elle se pensait bête, pas intelligente en tout cas. Donc je pense que le tutoiement et mon affection, en tout cas la proximité que je peux ressentir avec elle, il est aussi dans mon rapport à la littérature et de parfois m'y sentir un peu mal à l'aise, et en même temps, comme elle, d'une certaine manière, d'être certain d'être écrivain, aussi parce que ça passe par le travail, voilà. Et elle travaillait très dur, et je pense que je passe aussi beaucoup de temps à travailler mes textes, et que du coup c'est de cette manière-là que je me sens écrivain.
Voilà. c'est un texte où vous parlez beaucoup de son langage, de sa langue. Il y a quelque chose qui, en effet, relève de l'évidence, de la poésie, mais qui bouscule. C'est pareil, il y a une sorte de dommage, mais qui n'est pas une révérence. Enfin, je sais pas comment on dit. Il y a beaucoup d'amitié, en fait, dans ce tutoiement. Tout à l'heure, Anaïs France disait que c'est une préface qui donne beaucoup d'amour. Peut-être, mais moi, j'y ai aussi vu un grand sentiment d'amitié, quoi.
Mmh. On sent l'événement de la rencontre, quand même. Entre ton univers littéraire et puis son écriture.
Peut-être aussi parce que justement je l'ai découverte finalement il y a pas si longtemps que ça. Peut-être que ça se trouve, je me suis dit ça, dans quelques années, quand je n'ai pas encore tout lu de Violette Leduc, si on me demande d'écrire une autre préface, je vais la mettre à la vouvoyer, parce qu'elle aura encore pris plus de place et plus d'importance, et que peut-être que ça vient aussi de là. C'était une rencontre presque encore. Il y avait une proximité possible. Elle faisait pas partie d'un panthéon, de quelque chose comme ça, d'intouchable.
Et peut-être que ça n'arrivera jamais. Et peut-être qu'elle gardera justement cette place que vous décrivez si bien et dont vous disiez qu'elle a à la fois besoin d'être soutenue ou pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose dans la place qu'elle occupe dans le corpus littéraire qui est intéressant, qui est célébré dans votre texte, Mathilde Forget. Alors, vous disiez, on imagine son émotion à la faveur de la vôtre, de voir comme recomposer le texte Ravage. Peut-être on repart de là et de la censure de 1955 avant de parler de la façon dont vous avez pu travailler avec les autres, Anaïs France. La blessure, elle parle même d'un assassinat dont elle se remet pas ou dont elle se remet avec peine. C'est quoi? Comment ça se passe à l'époque?
Donc juste pour le tutoiement, je voudrais ajouter mon hypothèse, c'est que à mon avis, Violette Leduc établit une énonciation très égalitaire, un peu Thérèse et Isabelle, c'est essentiellement du dialogue, et je pense qu'elle tutoie le lecteur elle-même. Et donc je pense qu'il n'y a pas de condescendance ou quoi de tutoyer Violette Leduc.
Pas du tout. À aucun
moment. C'est
ça,
c'est parce qu'elle établit ce rapport d'intimité et qu'elle existe en tant qu'écrivaine à partir du moment où elle est lue. Donc elle appelle grandement d'avoir des lecteurs et qui comprennent et qui la reconnaissent telle qu'elle est. Et peut-être justement, et là c'est votre autre question, en 54, lorsqu'elle va déposer ce manuscrit de Ravage, qui va horrifier le comité de lecture, c'est la tête de Méduse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lisible.
Mais qu'ils lisent quand même.
Qu'ils lisent, bien sûr, qu'ils vont découper. Mais ce qu'elle écrit ne peut pas être reconnu. C'est trop... Il y a Cocteau à ce moment-là qui dit « Violette Le Duc ne fait pas ce qui se fait, mais ce qui se fera ». Et il y a quelque chose vraiment, sur plein de plans, sur les questions de sexualité, comme Mathilde en parlait, mais aussi les questions de santé mentale, les questions de... Il y a tout un potentiel de problématiques qui vont être développées bien plus tard. Et c'est pas pour rien que c'est aujourd'hui, 70 ans après, qu'on peut rassembler ce manuscrit. Donc, en 54, les réactions, c'est obscénité énorme et précise. Donc, ce qu'on appelle obscénité, c'est ce qui blesse les mœurs. C'est-à-dire que ce qui ne correspond pas à la morale, ce qui est possible, impossible, ce qui est bien ou mal. Et donc, tout ça, c'est aussi une histoire de législation, de qu'est-ce qui est reconnu, qu'est-ce qui est criminalisé. Donc le lesbianisme, évidemment, est complètement clandestin à ce moment-là. La question des violences sexuelles, de l'avortement clandestin, tous ces sujets qui sont abordés dans Ravage avec une intensité, je pense que le comité a dû un peu être vraiment ébranlé par ce texte qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on attend d'une femme.
Et elle mesure à ce moment-là quand elle présente ce manuscrit, parce que on peut lire des réactions où elle dit qu'ils se trompent, qu'en fait ils sont choqués par quelque chose qui ne devrait pas les choquer. Alors c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est comme si elle avait l'espoir qu'à ce moment-là, en 54, le texte puisse passer.
Alors ça, je pense que c'est un point très important. C'est ce que j'appelle, dans la sociologie du genre, on parle de violence symbolique. C'est-à-dire que à partir du moment où une femme, dans un contexte patriarcal, va exprimer son désir ou parler des violences subies, la violence symbolique fait qu'elle va, on va transformer cette expression-là en obscénité, en perversité, en folie. Je pense que c'est des problématiques que Mathilde aborde beaucoup dans ses romans et qui sont, on est en 2023, enfin, on est au 21e siècle maintenant, mais il faut imaginer, voilà, il y a 70 ans, quel est le cadre possible de soutien par rapport à ces sujets qui sont totalement tabous et qu'on n'a pas envie d'entendre.
Mais elle pense que c'est possible. C'est ça le sens de ma question. Alors, c'est ça
là,
qui m'intéresse.
Il faut voir le cadre d'écriture. Violette Le Duc, elle rencontre Simone de Beauvoir en 45. Elle présente le manuscrit en 54 après avoir travaillé pendant 6 ans. C'est son troisième roman. Elle commence à travailler sur Ravage en 48. À ce moment-là, Simone de Beauvoir, elle est en train de préparer le deuxième sexe. Donc Beauvoir, elle la pousse aussi à écrire sur l'avortement clandestin parce que ça constitue un gros chapitre du deuxième sexe qui le livre risque la censure à cause de ce chapitre. Elle la pousse à écrire sur son expérience vécue, sur la sexualité. Et on voit que dans sa correspondance personnelle, dans les années 48-50, Simone de Beauvoir, elle annonce que Violette Le Duc a commencé un livre où elle parle de sexualité comme aucune femme n'a encore parlé de sexualité avec vérité et justesse et poésie. Donc elle est poussée par Beauvoir. En fait, il y a un projet politique derrière le livre. Elle n'est pas toute seule.
Mais d'ailleurs, Beauvoir n'est pas Paris. C'est Beauvoir. Enfin, c'est-à-dire que Beauvoir est importante, mais ce que j'ai du mal à sentir, c'est à quel point elle se dit quand elle soumet le manuscrit en 1954, ça peut passer. Vous dites, elle est tellement regardée par Beauvoir, tellement soutenue, tellement encouragée à faire qu'elle se dit oui, ça peut passer.
Ouais, c'est une bonne question ça.
Non, parce qu'en fait, elle est très déçue. Il y a un couperet hyper fort.
Ouais, elle est très étonnée, c'est vrai, hein, c'est assez étonnant. Mais elle semble assez certaine que ça va passer, c'est vrai, alors que elle vivait dans cette même époque que tu décris, donc elle devait être au courant que c'était audacieux, qu'elle ne l'avait pas lu ailleurs, qu'elle serait lue par des hommes, et en même temps, elle tombe de sa chaise, quoi. Elle est là, parce qu'elle parle aussi de son honnêteté dans le geste d'écriture. Quand elle répond, c'est pas de l'obscénité,
Thérèse et Isabelle
ne sont pas obscènes.
Ils se trompent.
Voilà, elles sont juste, enfin, et je pense qu'elle est aussi assez.
Elle a écrit l'amour, elle a écrit son expérience vécue. Beauvoir lui dit que c'est ça qu'il faut faire, donc elle a confiance en ça. Et puis elle a pas de honte vis-à-vis de l'homosexualité, c'est pas quelque chose pour elle qui est problématique.
Donc elle comprend pas, en fait. Elle écrit 150 pages sur deux jeunes filles qui se rencontrent dans un internat, qui s'aiment pendant 3 jours sublimes où elles se retrouvent derrière les cloisons en tissu. Elle se demande quel est le problème. À la limite, c'est, parce que c'est surtout ces 150 qui tombent et puis on va venir ensuite sur les autres couples. Mais peut-être que, à la limite, on va dire la question centrale du viol sur lequel on va arriver ou de l'avortement. Bon. Mais peut-être que c'est...
Je pense qu'elle a un programme d'écriture. Elle doit écrire avec, effectivement, authenticité, justesse. Et donc, il n'y a pas de...
Avec l'idée que ça va être reçu.
C'est de la littérature. Et parce que les hommes, à cette époque, peuvent publier des choses.
Oui, c'est ça. Elle est avec Jean Genet, qui lui a publié des textes vraiment érotiques qui sont publiés par Gallimard. Donc,
alors, Genet, il doit aussi corriger un peu sa copie, je pense, à la fin des années 40. Mais ce n'est pas du tout équivalent. Et oui, y a pas beaucoup de femmes qui écrivent à ce moment-là, qui sont publiées. Donc, par comparaison avec, voilà, avec ce que les hommes peuvent dire.
Pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas ?
Elle parle de Henry Miller aussi, par exemple. Mmh. Bon, alors c'est sûr que ce que se permet Henry Miller, bah, Violette Le Duc, pof, ça passe pas, quoi.
Je voudrais qu'on écoute la question de Florian. Il a lu Ravage et il s'interroge justement sur les conditions, le moment de la censure.
Bonjour le Book Club, j'étais très content de lire Ravage dans son texte original cette année, donc sans la censure, sans les coupures qu'on avait demandé à Violette Le Duc de faire. Et plus j'avançais dans ma relecture, plus j'avais l'impression de comprendre un peu mieux les lecteurs de Gallimard. Il y a un passage notamment qui m'a marqué, c'est celui de l'hôpital. Parce qu'il n'y a rien de choquant moralement dans ce passage, il y a rien de répréhensible, c'est seulement la première fois qu'on voit Marc parmi les hommes. Et Violette Le Duc montre très bien comment sont les hommes entre eux, cet entre-soi masculin. Le passage est gardé, mais il est expurgé de certains commentaires, notamment de Marc qui a honte de Thérèse. Et c'est là que j'ai un peu mieux compris ce qu'on avait peur de montrer et de publier. Je les excuse pas du tout, hein, mais j'ai compris, je pense parce que eux-mêmes ont compris en fait qu'elle était le pouvoir d'un tel livre publié tel quel à l'époque. Et donc, je voulais demander à Anaïs France et Mathilde Forget si le fait d'avoir travaillé sur cette édition a pu éventuellement modifier aussi votre regard sur l'histoire éditoriale mouvementée de ce livre.
Merci beaucoup à Florian pour cette question. Anaïs France, est-ce que le travail sur la recomposition de ce livre-là, à partir, peut-être on peut aussi parler du matériel à partir duquel vous avez les autres travaillé, vous permet de mieux saisir, peut-être en fonction des coupes, en fonction de ce qui a été enlevé et censuré, le danger, parce qu'on a dit c'était irrecevable, c'était obscène, mais Florian fait l'hypothèse que c'était aussi dangereux.
Oui, alors, moi, ce que j'ai ressenti en travaillant sur le manuscrit avec Alexandre Antolin, Mireille Brioude, et puis... Parce qu'on a vraiment
fait... C'est pour ça que je dis les uns les
équipe,
autres, parce que
voilà.
C'est collectif.
Moi, c'était plutôt une question de structure romanesque. Mm. C'est vrai que c'était un... alors, le manuscrit qui a été censuré en 1954, il a disparu. On avait demandé à plusieurs reprises à l'éditeur. On est allé voir du côté de Sylvie Lebon de Beauvoir, qui est l'ayant droit de Simone de Beauvoir. Elle ne l'a pas retrouvé. Carlo Gensitti, qui est le biographe, il ne l'a pas non plus.
De Violette Le Duc.
Voilà, le biographe de Violette Le Duc. Donc, on n'a pas ce texte. À partir de là, on a travaillé à partir de différentes sources qui permettaient de compléter ou de reconstituer ce qu'il avait pu être. Donc Thérèse et Isabelle, Violette Le Duc a créé des tapuscrits de l'épisode après la censure. Et pour le reste, donc dans la deuxième partie, on avait ces passages qui ont été remplacés par des pointillés par la censure. Là, on les a trouvés dans les cahiers brouillons de Beauvoir. Et pour la partie finale, donc l'avortement...
Je précise juste que les cahiers de brouillons de Beauvoir, ce ne sont pas les cahiers de brouillons de Simone de Beauvoir, mais ils sont appelés comme ça parce qu'ils sont offerts par Simone de Beauvoir.
Oui, voilà. Et en 2015, Sylvie Lebon de Beauvoir fait un dépôt à l'IMEC, où s'est rendue Mathilde vraiment de façon très consciencieuse. Et donc, à partir de 2015, on a ce brouillon complet à l'IMEC, un brouillon de Ravage, qui a pu nous permettre de compléter donc en particulier ces scènes qui avaient été coupées et qui sont dans l'édition de 55 remplacées par des pointillés. Et puis pour la partie sur l'avortement, Alexandre Antolin a travaillé à partir des tapuscrits, des dactylographies qui ont été versés à l'IMEC et qui sont un peu plus tardifs que le brouillon. Et donc, moi, ce que j'ai constaté en travaillant, parce qu'il y avait beaucoup de problématiques qui se posaient, beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on devait agencer les différentes parties, c'était pas toujours facile. C'est vrai, je pense que Thérèse et Isabelle, on a une partie très, très intense avec ces trois nuits au collège et cette profusion d'images érotiques. Et puis ensuite, on passe à un autre récit de style très, très différent. Et on voit dans le brouillon Simone de Beauvoir que Violette Le Duc est en train de recomposer le manuscrit. Et donc, tout ce qui concerne le personnage de Marc, elle va l'inclure sous forme de discours rapporté dans un dialogue entre Cécile et Thérèse.
Et elle, ouais. Et Thérèse, ouais.
Alors, en fait, le manuscrit augmenté, là, qu'on publie en 2023, il passe assez bien le test Bechdel, là, le test de... mais ce qui est une forme, peut-être aussi, qui n'est pas vraiment attendue...
À ce moment-là, ouais, c'est dans ça. Les années 50.
C'est-à-dire que le personnage masculin est totalement diminué. Il apparaît dans les échanges. Cécile interroge Thérèse, pourquoi elle sent que quelque chose s'est passé. Marc a débarqué chez elle. Et donc, toute l'histoire de Marc dans le brouillon Beauvoir, alors, c'était sans doute comme ça aussi dans le manuscrit de 54, apparaît sous forme de discours rapportés entre les deux femmes. Et puis du récit rétrospectif de la narratrice qui prend le relais.
Sur l'hypothèse du potentiel danger ou d'un texte qui serait dangereux, qu'est-ce que vous auriez à dire, Mathilde Forget? Aussi
oui.
Au regard, parce que ce qui est intéressant, peut-être on peut dire que dans l'édition proposée par les éditions Gallimard, tout ce qui était absent et qui est maintenant présent est dans une autre couleur. Donc on a aussi de manière hyper
sensible. Ouais, il faut parler de l'objet, ouais, ouais. qui est du coup un hors-série. Et effectivement, c'est l'idée de Margot Gallimard d'intégrer les parties censurées en violet. Donc il y a deux couleurs, il y a le noir et le violet, et c'est au début, je dois avouer que j'avais eu un peu peur de cette idée. Je me disais, est-ce que ça peut nous sortir de la lecture et n'en faire qu'un objet éditorial ou qui raconte que la censure. Et en fait, ça marche très bien.
C'est même troublant
ouais. Comme ça marche. Et parce qu'il y a des fois des gros passages en violet, mais il y a des fois vraiment juste des mots, un mot comme ça qui apparaît en violet. Et moi, j'adore parce qu'on a vraiment l'impression de l'avoir écrire, ouais. Se censurer, se décensurer. Ce mot, on a l'impression de l'avoir jamais lu avec autant d'intensité, qu'il est là, qu'il n'avait pas existé, qu'il maintenant il peut réapparaître. Et après, sur la censure, c'est assez, assez simple, ce qui censure, c'est des femmes qui font l'amour ensemble sans homme, donc oui, c'est effrayant. C'est un viol, donc c'est dire c'est quoi une agression sexuelle. Donc
c'est tout l'épisode qu'on dit dans le taxi.
Et c'est l'avortement, donc effectivement, c'est assez.
Ce serait quoi? Tout ce qui menacerait l'ordre patriarcal, parfaitement établi et parfaitement à l'œuvre, encore bien solide à ce moment-là, sur ces trois questions dans les années 50.
Ouais. C'est le vécu des femmes qui est systématiquement évacué de ce qui est considéré comme...
L'histoire de l'humanité, quoi. C'est à côté, quoi.
Ouais. On va écouter la voix de Violette Le Duc dans une archive de 1970.
Simone de Beauvoir n'est jamais familière. Elle est la discrétion même envers les autres. Donc, moi-même, je suis discrète envers elle. Mais quand j'ai été malade, gravement malade, quand j'ai eu une dépression nerveuse, quand je suis arrivée chez elle, sans avoir téléphoné avant, frappant à sa porte, la dérangeant dans son travail, elle ne m'a jamais repoussée. Et elle a été, une mère n'aurait pas de sens, mais je ne peux pas imaginer une famille aussi bien qu'elle. J'allais la retrouver tous les 15 jours, et quand je montais dans l'autobus, tout changeait. L'autobus volait, mon manuscrit ne pesait plus, je lui apportais mon travail. J'entrais dans le café, ce n'était plus des Parisiens, ce n'était plus des Français, c'était presque des cosmonautes, enfin des êtres d'une autre planète. Et quand elle arrivait également, elle ne marchait pas, elle volait, elle était également entre ciel et terre.
la voix de Violette Leduc en 1970. Pas tant pour évoquer ce qu'elle dit de Simone de Beauvoir, parce qu'on en a déjà parlé, Anaïs France et Mathilde Forget, mais pour évoquer ce deuxième moment, on peut revenir sur Simone de Beauvoir, mais le deuxième moment où on entend la transformation du réel par le désir et la littérature. C'est elle se rend, elle va voir Simone de Beauvoir, et l'élan amoureux, l'élan désirant, modifie sa réalité, et elle parvient à le rendre par le langage. De même qu'on a l'impression, on peut faire l'hypothèse, que ce qui est tendu entre elles deux, qui peut-être relève de, en effet du désir et de l'amour, mais aussi de la littérature, modifie le réel. Et je trouve que dans cette archive, elle parvient à le raconter hyper simplement, quoi. C'est ce que vous disiez, Mathilde Forget, c'est-à-dire à partir d'une scène concrète, vous, c'était la gare, et là, elle dit quand je vais dans un café pour travailler avec elle, ça bouge, quoi. Et par le langage, elle est en mesure de dire qu'est-ce qui bouge. C'est fort.
C'est fort, ouais. Et peut-être que j'en parle un peu dans ma préface, mais j'associe un peu son écriture à l'écriture ou à la poésie de l'enfant et de l'enfance. Mmh. Et j'ai l'impression qu'elle a peut-être conservé ça aussi. C'est-à-dire que les enfants, pareil, les enfants, si on les met devant une cheminée ou devant une voiture, ils vont voir une voiture et mille autres choses. Mmh. Ils sont très libres dans leur imagination.
Et les dire.
Mmh. Voilà, exactement. Et le croire, d'ailleurs, c'est tout à fait ce. Et je trouve qu'elle a conservé ça, et ça se sent dans son écriture. Et voilà. Je pense qu'il y a, peut-être ça, c'est qu'elle a encore cet imaginaire de l'enfant, très fou, très, très libre.
Oui, d'ailleurs, vous dites dans cette préface que il n'est pas tant question d'aller au réel à l'os, mais d'en faire autre chose, quoi. Ouais. Ça peut vite partir. Ça peut être vraiment quelque chose d'incandescent, et qu'il s'agisse de tout. C'est-à-dire autant de décrire de la sexualité avec, on l'entendra tout à l'heure, une force métaphorique importante, mais qui ne fait pas quitter le réel pour
non,
autant.
Pas du tout, ouais.
Et autant d'écrire des discussions, une amitié, un paysage, la rue, tout ça avec une puissance. C'est marrant, vous évoquez l'enfance, mais moi je pense aussi à Rimbaud, à des manières comme ça de monter le réel vers autre chose, quoi, dans des puissances poétiques, quelque chose qui est déroutant. Je disais tout à l'heure que c'était choquant, mais moi j'ai trouvé que autant la structure de Ravage, qui est une structure complexe, une fois qu'elle est rétablie dans son, on va dire, dans son intentionnalité du début, quoi, que la langue et comment ça te prend et te fait bouger, quoi, c'est quand même une originalité.
On peut peut-être penser à des peintres, en fait. Mmh. Moi, j'ai toujours trouvé que Violette Leduc, elle écrivait comme un peintre. Et là, je sais pas, je pense au cri ou quelque chose comme ça. L'univers entier est transformé en fonction de ses émotions. Mmh. Et son intimité se reflète entièrement.
Très synesthésique, d'ailleurs.
Oui. Ah bah complètement.
Ouais, y a vraiment
la question de la sensation, c'est le cœur de son écriture. Écrire le ressenti. Et c'est ça aussi, je pense, qui gêne beaucoup, parce qu'elle inscrit dans cet espace de la littérature qui est, en 54, un monde exclusivement masculin, pratiquement. Le désir féminin est vraiment mis de côté. Et elle inscrit les sensations ressenties par une femme. Donc, c'est inscrire un vécu qui est dévalorisé, qui n'existe pas. Et c'est là, le scandale, il est sans doute là. Et le ressenti, quelle que soit l'émotion ou
l'événement.
Mais c'est
ça, jusqu'au regard. C'est-à-dire que c'est pas tant uniquement le vécu sexuel de la femme. C'est aussi, quand je dis son désir, c'est aussi sa façon d'être en vie, quoi. Enfin, il y a aussi ça qu'elle met
Ah bah, quand elle fait le ménage, ça devient... Elle aime beaucoup faire le ménage dans sa maison. Et c'est, pour elle, c'est une manière aussi d'écrire. Enfin, elle le fait avec beaucoup de poésie.
Peut-être revenir quand même un instant sur ce qu'elle dit de Simone de Beauvoir. Elle dit peut-être pas une mère, et en même temps elle le dit quand même. Et il y a une façon comme ça d'être en aller-retour entre un amour amoureux, un amour désirant, et un amour quasi filial. Et puis vous parliez de l'enfance ou de l'enfant qui demeure comme ça. Est-ce que c'est une façon de se présenter elle-même comme étant perpétuellement une enfant, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai presque l'impression qu'elle... Je pourrais entendre cette archive de 1970 comme une façon de se diminuer.
Mm-hmm.
Ouais.
Oui. Aujourd'hui, de pas déranger peut-être Simone de Beauvoir.
De se rapetisser.
En disant qu'elle était complètement amoureuse, et je pense qu'elle la voyait plus comme une...
Comme une amante, amoureuse, quand même.
Oui, comme une amante. Mais là, elle dit qu'elle... Je pense que c'est pour pas déranger Simone de Beauvoir et de plutôt se mettre à un endroit, effectivement, d'élève ou de...
Mmh. Ouais, bah, il y a toujours cette verticalité, ouais, entre Simone de Beauvoir, qui doit toujours être très, très lumineuse, alors qu'elle est très obscure. Elle joue sur les contrastes. Donc, c'est peut-être un effet aussi d'écriture.
Mais parce que... Pardon.
Allez-y.
Il y a un côté élève dans leur relation parce que je crois que à chaque fois que qu'elle voit Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir lui demande alors est-ce que tu as écrit ce que tu as écrit. C'est presque une condition pour pouvoir voir Simone de Beauvoir.
Après, son contemporaine Beauvoir est un peu plus jeune que Violette Leduc. Donc faut...
Et ces cahiers, ces fameux cahiers, donc l'idée, les cahiers de Beauvoir, c'est qu'apparemment, il y avait la page de droite où elle écrivait, où elle avançait dans Ravage, et la page de gauche où, un peu comme une maîtresse d'école, Simone de Beauvoir annotait. Vous les avez vus, du coup?
Oui, je l'ai vu, ces cahiers, effectivement, c'est exactement ça. À gauche, il y a des pages blanches où on voit Simone de Beauvoir qui fait des petites étoiles, qui rajoute, qui rature et qui corrige presque la copie, c'est vrai.
Qu'est-ce qu'elle a à y gagner, Simone de Beauvoir? Vous disiez tout à l'heure, Anaïs France, et je pense que c'était intéressant de souvenir qu'elle est en train de travailler pour le deuxième siècle, et elle est aussi en train de faire monter une pensée, essayer de changer les choses, de la rendre contemporaine. Mais qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cette relation? Vous disiez, Mathilde Forget, c'est la condition sine qua non de l'écriture. Comment est-ce qu'on pourrait raconter ce lien-là? Pourquoi est-ce qu'elle a tant envie qu'elle écrive?
Alors, Simone de Beauvoir?
Oui, pourquoi?
Je pense qu'elle est très admirative déjà.
De
ça,
Violette
c'est
Leduc,
sûr, elle est.
Du
elle
style.
Est... Ouais, ouais.
Et en fait, Violette Leduc, elle arrive à écrire ce qu'elle démontre philosophiquement. Enfin, vraiment, la question de la
sexualité. Qu'elle incarne presque dans ses textes.
Pour elle, Violette Leduc est capable d'écrire la sexualité comme un homme. Pour elle, voilà, c'est la valeur de référence. Mais elle la pousse parce qu'elles doivent accomplir des choses. Je pense que Beauvoir, c'est quelqu'un de très pratique, très engagé.
Elle a un projet, quoi.
Elle a un projet.
Et en fait, elle veut embarquer. Elle a besoin de cette écriture-là pour nourrir le projet général, on va dire.
Ça participe au projet.
On va écouter un extrait donc, de ce qui a longtemps été appelé Thérèse et Isabelle, qui est cette partie censurée du début de Ravage et qui est de nouveau maintenant dans le giron de Ravage.
La main déshabilla mon bras, s'arrêta près de la veine autour de la saignée, forniqua dans les dessins, descendit jusqu'au poignet, jusqu'au bout des ongles, rhabilla mon bras avec un long gant suédé, tomba de mon épaule comme un insecte, s'accrocha à l'aisselle, se frotta à la touffe de poils. Je tendais mon visage. J'écoutais ce que mon bras répondait à l'aventurière. La main qui se voulait convaincante mettait au monde mon bras, mon aisselle. La main se promenait sur le babillage des buissons blancs, sur les derniers frimas des prairies, sur l'emploi des premières bougeons. Le printemps qui avait pépié d'impatience dans ma peau éclatait en ligne, en courbe, en rondeur. Isabelle, allongée sur la nuit, enrubanait mes pieds, déroulait la bandelette trouble, les mains à plat sur le matelas. Je faisais le même travail de charme qu'elle. Elle embrassait ce qu'elle avait caressé, puis de sa main légère, elle ébouriffait et époussetait avec le plumeau de la perversité. La pieuvre dans mes entrailles frémissait. Isabelle buvait au sein droit, au sein gauche. Je buvais avec elle, je m'allaitais de ténèbres quand sa bouche s'éloignait. Les doigts revenaient, encerclaient, soupesait la tiédeur du sein. Les doigts finissaient dans mon ventre en épaves hypocrites. Un monde d'esclaves qui avait le même visage que celui d'Isabelle éventait mon front, mes mains. Isabelle revint dans le lit. Elle me convoita avec des doigts de chercheur d'or. Je la flattais. Je préférais l'échec au préparatif. Faire l'amour dans une bouche me suffisait. J'avais peur et j'appelais au secours avec mes moignons. Deux pinceaux se promenèrent dans mes replis. Mon cœur battait dans une taupinière. Ma tête était pleine de terreau. Soudain, tout changea. Deux doigts contrariants me visitaient. Que la caresse est magistrale. Que la caresse est inévitable. Mes yeux clos écoutaient. Le doigt effleurait la perle. Le doigt attendait. Je me voulais spacieuse pour la seconder. Le doigt royal et diplomate avançait, reculait, m'étouffait, commençait à entrer, vexait la pieuvre dans mes entrailles, crevait le nuage sournois, s'arrêtait, repartait, attendait près des viscères. Je serrais, j'enfermais la chair de ma chair.
sa moelle et sa vertèbre. Je me dressais, je retombais. Le doigt qui n'avait pas été blessant, le doigt venu en reconnaissance, sortait. La chair le dégantait.
On est au tout début de Ravage dans les éditions Gallimard et cette édition augmentée, ça fait partie des passages qui étaient coupés. En écoutant Jeanne Aléos lire ce passage, je pensais à une scène de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une scène d'amour où les deux amantes, enfin les doigts pénètrent les selles et il y a comme une sorte de chose qui se confond entre le sexe et les selles. Ça vous dit quelque chose ?
Oui, oui, bien sûr.
Comme si Céline Sciamma avait lu, c'est très probable d'ailleurs.
Ah oui, il y a beaucoup de choses parce qu'il y a même ce moment dans Thérèse et Isabelle ne dort pas, je crois. Mm-hmm. Elsa ne dort pas, ne dort pas. Et dans Portrait, ne dort pas,
ne dort pas. Ne dort pas, ne t'endors pas, ne t'endors pas. Voilà, il est trop tard pour continuer à discuter de ce texte, mais j'espère qu'on aura donné envie aux uns et aux autres de l'ouvrir. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été
merci,
avec
merci.
Nous, Anaïs France et Mathilde Forget.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
15h51 sur France Culture. Le mardi, nous avons rendez-vous avec Lou Quevauvillier. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Tous les mardis, vous vous postez au croisement entre les enjeux littéraires et les enjeux numériques. Aujourd'hui, vous vous intéressez à Crash Room. C'est un projet, vraiment, on va vieillir de plus en plus cultivé. C'est un projet de traduction et d'édition numérique consacré au handicap, à la neurodiversité et à l'accessibilité.
Oui, Crash Room, c'est le projet d'Étienne Chausson, universitaire, spécialiste en histoire de l'art et en philosophie, et de Larry Medawar, une personne trans, racisée, autiste, curateur d'exposition. Tous les deux, et c'est ce qui les relie sur le projet, sont aussi spécialistes en disability studies. C'est un champ d'études qui est peu connu en France, mais qui existe depuis presque 50 ans dans les pays anglo-saxons et qui interroge le handicap dans ses dimensions sociales, culturelles et politiques. Alors évidemment, il y a un certain nombre de ressources en anglais autour de ces disability studies, mais il existe très peu de choses en français. Et les livres qui paraissent timidement ces dernières années sur le sujet et en format papier traditionnel sont plutôt écrits par des scientifiques plutôt que par des personnes neurodivergentes ou porteuses d'un handicap mental et ou physique. Crash Room s'inscrit donc en réponse à ce manquement en proposant une plateforme de traduction qui permet la diffusion de savoirs, d'expériences et d'expérimentations littéraires en tout genre par et pour les personnes concernées. Les textes peuvent être scientifiques, philosophiques, fictionnels ou poétiques et sont édités de manière à pouvoir être lus malgré des difficultés de lecture liées au handicap. Tout ça, c'est en libre accès et je vous propose qu'on s'interroge sur la dimension politique et militante de ce projet numérique.
Alors allons-y, les textes, comment sont-ils choisis, Lou ?
Eh ben, d'abord, les textes sont choisis par Étienne Chausson et Larry Medawar pour leur format. Il faut qu'ils soient assez brefs, à la fois pour qu'ils puissent être lus par des gens pour qui la lecture est difficile en termes d'effort et de concentration, et à la fois pour pouvoir être partagés sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur X, anciennement Twitter par exemple. Tous les textes abordent le handicap ou la neurodiversité dans une approche intersectionnelle avec une attention toute particulière pour les regards féministes et queer sur le handicap. Ensuite, chaque texte est traduit par une personne qui est concernée par les questions soulevées et qui est bien sûr expérimentée et sensible au travail de traduction. Pour vous donner une idée, on peut prendre un exemple qui est sur le site, celui du texte de l'artiste JJ Khan intitulé « De l'évasion », qui est un article théorique de 2018 qui reprend et qui critique une interprétation de dessin d'une personne autiste qui a été faite par le psychothérapeute et pédagogue Bruno Bettelheim. Le texte a été traduit par Camille Cornu, qui est autiste et qu'on connaît par ailleurs pour ses romans qui abordent ce sujet de manière centrale ou plus périphérique.
Alors vous parlez aussi, Lou, d'accessibilité numérique, je disais ça, vous êtes vraiment posté au croisement des deux enjeux. À quoi ça ressemble cette plateforme ?
Déjà, la dimension de l'accessibilité numérique, elle est importante à souligner parce que c'est un grand sujet de lutte pour les personnes neurodivergentes et ou déficientes visuelles qui souvent n'ont pas accès aux ressources en ligne. Sur Crash Room, et grâce au travail de design graphique de Valentin Bigel, qui a été aidé là encore de personnes concernées par ces problèmes d'accessibilité, la lecture peut être aménagée selon ses propres besoins. concrètement, on peut modifier la taille du texte, modifier les polices, il y a notamment une police spécifique pour les personnes dyslexiques, modifier les couleurs ou encore l'interlignage. L'idée, c'était aussi de proposer un design de site qui aille à l'encontre du préjugé qui consiste à penser que l'accessibilité serait juste quelque chose de contraignant et d'inesthétique. Ce site est un exemple qui prouve bien que ça peut aussi être un endroit de recherche et de trouvailles artistiques, graphiques et typographiques. Et puis, tout est également fait pour que les lecteurs vocaux, ces appareils qui peuvent lire l'écrit, ne bug pas, et notamment lorsque l'écriture inclusive est utilisée, et c'est souvent malheureusement le cas. Ici, chaque texte est testé avant d'être publié, et d'ailleurs à l'avenir, Étienne Chausson et Larry Medawar imaginent proposer une version audio du catalogue.
Donc c'est un projet qui est amené à évoluer encore.
Oui, finalement, Crashroom comme un crash test, comme une plateforme expérimentale en perpétuel mouvement pour donner à lire toujours plus de textes à toujours plus de personnes concernées et qui sont souvent isolées avec leurs questionnements. Et la spécificité de l'édition numérique, c'est que rien n'est figé, contrairement à des textes édités sur papier. Donc les progrès en termes d'accessibilité ou les recherches autour d'une langue encore plus inclusive, par exemple, pourront être répercutées sur l'ensemble des textes en ligne au fur et à mesure. Pour l'instant, il y a 5 textes consultables sur le site, mais c'est le début du projet, il y en a des dizaines au show et à paraître.
Génial. Vous nous rappelez le site ?
L'adresse, c'est https://crashroom.oo.
Merci beaucoup Lou, lecture numérique à réécouter sur franceculture.fr. Il est 15h56, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales dans le Book Club. Je rappelle le principe, vous êtes en train de lire un livre, vous repérez n'importe quelle page où il est question de musique. Vous nous l'envoyez ou bien par l'Instagram du Book Club de France Culture ou bien par l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com. Un très grand merci pour toutes vos trouvailles de lecture. Tous les jours, j'en pioche une. Aujourd'hui, c'est Noémie qui joue avec et pour nous. Elle a choisi un court extrait d'un livre d'Annie Ernaux paru en 1997 aux éditions Gallimard. Décidément, c'est la fête aux éditions Gallimard aujourd'hui. Le texte s'appelle « Je ne suis pas sortie de ma nuit ». Dans ce texte, la prix Nobel de littérature évoque sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer au début des années 80 et placée dans une maison de retraite. Elle dit « Quand je revenais de mes visites, il fallait que j'écrive sur elle, son corps, ses paroles, le lieu où elle se trouvait. Je ne savais pas que ce journal me conduirait vers sa mort en 1986 ». Mars, samedi 2, la porte de l'ascenseur s'ouvre, elle est juste devant, avec une petite vieille. Elles sont toutes ainsi, à la recherche de l'autre. Naturellement, comment pourrait-elle retrouver son dentier ? À chaque fois que je reviens de la voir, j'ai besoin d'écouter de la musique sur mon autoradio, très fort, tout en roulant sur l'autoroute. Aujourd'hui, avec jouissance et désespoir, cet extra de Léo Ferré. J'ai besoin d'érotisme à cause du corps de ma mère, de sa vie.
C'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette.
Au son aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui pense et prépare ces émissions. Avec moi, Jeanna Léos, Mathilde Wagman, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weiss-Grus, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Bégovitch. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Et n'oubliez pas qu'il existe un podcast dispo, par exemple, sur l'appli Radio France. Très bel après-midi sur France Culture. Que vient troubler l'archer qui...